Interview.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec beaucoup de monde au studio. Aujourd'hui, à commencer par Coraline Monod. Bonjour.
Bonjour Yves.
Coraline Monod, tu es agente de développement social et local au sein de l'ESCDD. Face à toi, nous avons Marion Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Marion Perrier, donc vous êtes référente mobilité et cohabitation solidaire.
À l'espace social, oui.
À l'espace social, merci de préciser. Et il y a aussi également Yann Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Et responsable de service au CCAS de Die. Et vous allez être présent aussi pour nous parler donc de du logement solidaire en globalement, mais on va aussi préciser quel type. Et aussi Louis Bertrand pour son statut d'hébergeur également. Bonjour.
Bonjour.
Alors, tous quatre, vous êtes présents pour nous annoncer un peu ces dispositifs. Donc, c'est sur un constat de quoi que vous vous êtes penchés sur cette action ou sur ces actions?
Ça fait plusieurs années que quand même les questions de logement dans le Diwa, d'hébergement aussi des personnes qui sont de passage parce qu'elles sont en formation, en travail saisonnier ou en stage divers, et même pour les habitants de manière générale rencontrent des difficultés pour trouver du logement. Et donc, il y a plein d'acteurs qui se sont mis en route, dont les collectivités, pour vraiment renforcer les rénovations, du lien avec des propriétaires. Enfin, il y a un ensemble de dispositifs autour de l'urbanisme. Mais on est aussi invité, enfin, en tout cas, nous, à l'espace social, après avoir entendu pas mal de situations d'habitants, à développer des solutions un peu innovantes autour de l'habitat et qui permettent aussi du lien social.
Alors, pour cela... Il y a Marion Perrier, pour ce qui est de l'hébergement, précisément. Et en quoi consiste cette activité? Et à qui s'adresse cette activité particulièrement? Et quelles sont justement les actions ou les propositions faites?
Alors ça s'adresse à toute personne, qui soit propriétaire ou locataire, qui a un logement avec un peu de place disponible et la volonté de pouvoir accueillir quelqu'un de manière temporaire, ça peut être quelques jours jusqu'à quelques mois. Et ces personnes qui sont accueillies de manière temporaire sont plutôt des personnes qui sont qui ont un projet professionnel en cours. Donc souvent des stagiaires qui font des formations, Greta, CFPPA, ça peut être aussi des saisonniers, voilà, tout type de personnes qui sont en quête de logement sur le territoire. Et on va proposer des cohabitations et mettre en lien des personnes qui souhaitent recevoir quelqu'un, ces échanges sont soit moyennant finance, un petit loyer, soit des échanges de services. Donc ça peut concerner les personnes un peu plus âgées qui sont des fois toutes seules dans des grandes maisons et qui sont rassurées par la présence d'une personne.
Alors justement, on peut préciser qu'est-ce qu'il faut être pour... héberger ou est-ce qu'il y a des particularités pour être hébergeur qui prêtent votre attention particulière?
Bah, faut avoir juste envie d'accueillir quelqu'un. Après, tout est possible. Il faut une chambre quand même minimum pour pouvoir pour accueillir une personne dans des conditions décentes. C'est tout. Après, il faut juste la volonté de deux personnes de cohabiter. Donc, il y a une convention qui est signée. Qui est tripartite entre l'hébergeur, la personne accueillie et l'espace social, donc le dispositif de cohabitation solidaire, pour permettre justement d'établir un contrat, savoir quelle est la durée, quels sont les droits et devoirs de chaque personne. Donc ça permet d'officialiser un peu une cohabitation qui s'adapte aux besoins de chacun.
Ça peut être une convention au cas par cas, en fonction des propositions?
C'est une convention au cas par cas, c'est exactement ça. Donc il y a des offres, des personnes qui souhaitent accueillir mais qui ont des contraintes. Donc il y en a qui disent, je peux accueillir des personnes mais pas pendant les vacances scolaires, par exemple. Et puis en face, il y a des personnes qui disent, moi j'ai besoin d'avoir un hébergement de janvier à mars. Et on essaye de faire coïncider les offres et les demandes.
Pour cela, nous avons Louis. Toi, tu es hébergeur.
Alors, je l'ai été. Je l'ai été. Et avant de commencer pour vous expliquer mes motivations, je tiens à raconter une toute petite histoire que j'ai vécue en Inde, où j'y étais en février-mars, dans laquelle j'étais hébergé par une famille qui comportait donc un papa et une maman qui avaient 3 enfants. Il y avait la belle-mère. Et ils accueillaient dans leur maison 2 paires de cousins qui habitaient dans des villages avoisinants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, ils habitaient à, j'en étais plus, alors 2 plus 3 plus 3, 6, 10 personnes qui vivaient en cohabitation dans une pièce et demie. C'est à peu près 15 mètres carrés et ils dormaient, ils mangeaient tous ensemble. Alors, j'avais été hébergeur préalablement avec ça, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur la notion de partage, parce que moi, j'ai la chance de bénéficier d'une maison avec une chambre en plus, donc satisfaisant les conditions ad hoc. Mais après, on n'a pas forcément envie de partager. Alors, qu'est-ce qui peut donner envie de partager ? Ben, c'est quand même se sentir concerné par ce qui se passe en France en ce moment, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont hyper mal logées ou qui passent et qui ne savent pas où se loger. Ou alors, ils tombent sur des usuriers qui leur proposent des logements. J'ai entendu parler de quand même de 600 à 700 euros par mois dans le Diwa. Donc, c'est pas... moi, personnellement, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai un bien immobilier. Je peux le proposer. Je me suis dit, allons-y. Voilà. Ça, c'était la motivation.
Alors ça, c'est l'aspect... Logement ou hébergement ?
Hébergement.
Hébergement, ça.
Et pour ce qui est du logement, je me tourne ensuite vers Yann Chevalier, donc responsable de service au CCAS. Quelle mission s'attelle justement le CCAS sur ce sujet ?
Alors, comme l'a dit Coraline tout à l'heure, on part d'un constat déjà, c'est que effectivement c'est compliqué de trouver des logements. Nous, on s'adresse à un public qui est en grande précarité. Louer solidaire, c'est le dispositif qu'on a mis en place. Il s'adresse à des personnes qui n'ont pas de logement et pas d'hébergement. Il est issu en fait de. Il faut revenir il y a quelques années, le CCAS de Die gérait un hébergement d'urgence. C'est encore le cas. Il gère un hébergement d'urgence aujourd'hui, mais uniquement pour les femmes qui sont sans hébergement et sans logement. Il y a de ça 3 ans, c'était un hébergement. Il y avait aussi un hébergement homme avec 3 places, dont 2 sur le plan grand froid. Il y a eu une réorientation des politiques d'État qui souhaitait que ces hébergements, le nôtre était celui du CCAS de Die, était ouvert du 1er novembre jusqu'au 31 mars. L'État a souhaité, ce qui était une demande très forte des collectifs d'hébergement aussi, que l'hébergement soit ouvert toute l'année. Sauf que structurellement, nous, ça n'était pas possible. Donc, ils nous ont accompagnés pour mettre en place un dispositif qui s'inscrit dans la politique qu'on appelle le logement d'abord, c'est-à-dire qu'une personne qui est à la rue, elle n'a pas besoin d'un hébergement, mais elle a besoin directement d'un logement, en fait. Et que c'est parfois contre-productif de lui proposer d'aller d'abord en hébergement d'urgence, puis dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, puis dans un logement de transition et à la fin dans son propre logement. Voilà. Du coup, là, l'idée, c'est vraiment de proposer d'emblée un logement à la personne et d'essayer, autant que faire se peut, que le bail puisse glisser au nom de la personne quand ça se passe bien. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que le CCAS de Die propose sur le territoire, de louer un appartement. Concrètement, c'est le CCAS de Die qui loue l'appartement auprès d'un propriétaire privé. C'est le CCAS qui paye le loyer, qui paye la caution, la garantie, qui assure tous les risques locatifs aussi. Puisqu'on a un agrément de la préfecture qui nous autorise à mettre en place un bail de sous-location. Voilà. Donc, les personnes, ce n'est pas nous qui les choisissons. Il faut que ce soit des personnes qui aient fait un dossier auprès du service intégré d'accueil et d'orientation de la Drôme, c'est-à-dire le SIAO.
C'est un service départemental ?
C'est un service départemental, oui, effectivement, qui, du coup, gère toutes les demandes d'hébergement et de logement pour proposer la meilleure orientation aux personnes. Donc, une personne fait une demande avec un travailleur social. Ça demande l'accompagnement d'un travailleur social. Et cette personne est orientée vers un dispositif, du coup, qu'on appelle l'intermédiation locative. Bon, comme ce n'est pas très parlant pour les personnes, on a décidé de l'appeler louer solidaire. Et du coup, si une personne est surdite, elle peut être orientée sur une place de louer solidaire. Et il y a une commission d'attribution. Ce n'est pas nous qui choisissons, on le choisit à plusieurs. Il faut que ça corresponde aussi aux besoins de la personne et que la personne puisse être actrice de cet accompagnement. Cet accompagnement, il vise soit à, si la personne rentre dans un logement de louer solidaire, elle peut choisir soit à la fin, au bout de 2 ans maximum, on peut faire glisser le bail à son nom si elle se voit rester dans ce logement. Sinon, on peut aussi l'accompagner pour trouver un logement pérenne, du coup du logement social ou même du logement privé. Voilà. Je disais tout à l'heure, l'objectif aussi pour les propriétaires, parce qu'on voit aussi que c'est compliqué aujourd'hui pour les propriétaires privés de s'engager parfois à louer un appartement parce qu'il y a beaucoup de risques. Aujourd'hui, c'est vrai que pour un propriétaire, on peut faire le constat, on rencontre des propriétaires qui ont connu des difficultés, des impayés de loyer, des appartements dégradés. Ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Parfois, c'est l'inverse. C'est aussi des propriétaires qui proposent des logements qui ne respectent pas certaines normes vis-à-vis du logement.
Vous êtes vigilant sur ces aspects de logement ?
Très vigilant. Tout à fait. Le logement doit rentrer dans certaines classes énergétiques et il doit être décent. Voilà. Le CCAS, effectivement, contractualise avec le propriétaire. L'idée, c'est d'assurer tous les risques pour le propriétaire. Donc, c'est le CCAS qui assure ces risques. C'est le CCAS qui paye le loyer. Et s'il y a une dégradation du logement, c'est le CCAS qui paye les frais de remise en état du logement. Si il y a un impayé de loyer, le CCAS accompagne la personne. Donc il accompagne aussi dans les dispositifs de droit commun pour faire des demandes d'aide quand il y a des difficultés pour payer le loyer. Mais au final, c'est le CCAS qui assume l'impayé de loyer. S'il y a de la vacance, par exemple, si le sous-locataire décide de partir, il a trouvé un nouveau logement ou il change de département, alors si le temps qu'il y ait un nouveau sous-locataire dans le logement, c'est le CCAS qui assume cette vacance. Voilà. Donc il y a quand même peu de risques pour le propriétaire. Mais voilà, on fait le constat, au bout de 3 ans, que ça reste difficile quand même pour les propriétaires de s'engager dedans. Alors sans doute pour des questions de communication aussi, il faut aussi que l'information arrive auprès des propriétaires privés de la commune de Die. Mais aujourd'hui, on a 3 logements. Voilà. Potentiellement, on pourrait avoir jusqu'à 5 logements. Voilà, on a un travailleur social qui travaille sur l'accompagnement des personnes. Et au niveau de sa file active, il pourrait gérer jusqu'à 5 accompagnements au niveau des personnes.
Je reviendrai vers vous, Yann. Je me tourne vers Marion. Est-ce qu'il y a ces impératifs aussi pour trouver un hébergement chez des particuliers? Et puis aussi, quelles sont les possibilités pour un locataire? Est-ce que ça peut concerner un locataire, justement, de pouvoir héberger? Et qu'est-ce qu'il y a comme impact au niveau administratif sur cette action? Est-ce que la caisse d'allocation logement peut-être suspendre je ne sais pas.
Alors, ça peut s'adresser au locataire. Ce n'est pas de la sous-location, parce que la personne qui est propriétaire ou locataire reste dans son logement et partage une chambre moyennant un loyer qui doit toujours être plutôt minime plutôt symbolique, c'est surtout un partage pour les charges, en fait, en gros, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas considéré comme de la sous-location, donc c'est pas considéré comme tel aux yeux de la CAF, par exemple. Voilà. Mais par contre, cette pratique de cohabitation solidaire, elle est quand même encadrée, et donc, elle est, par exemple, pas accessible aux personnes qui sont en DH. Donc, DH n'autorise pas cette cohabitation, qui n'est encore une fois pas de la sous-location.
Elle a émis ses raisons.
Bah, en fait, c'est juste, en fait, ils veulent pouvoir garder un œil sur ce qui se passe dans leur logement, ce qui est normal aussi. Ils ont le dossier des locataires, mais du coup, s'il y a une autre personne qui rentre dans leur bâtiment, ils ont besoin de le savoir. Là, c'est un cas un peu particulier sur les bailleurs sociaux. Sinon, dans tous les logements, c'est possible, parce qu'en fait, ce n'est pas de la sous-location, ce n'est pas de la colocation, c'est vraiment de la cohabitation. Et voilà. Et donc, la personne n'est pas chez elle, elle est chez la personne qui l'héberge, et elle bénéficie d'une chambre à minima, avec souvent partage de la cuisine, des sanitaires. Quand ça vient dans de l'hébergement intergénérationnel, c'est-à-dire que c'est une personne âgée qui accueille une personne plus jeune, il peut y avoir un échange de services. Donc, il n'y a pas forcément un échange monétaire. Ça peut être une présence, une aide pour le jardin ou pour l'entretien de la maison ou toute autre forme de solidarité, en fait.
Pour illustrer le propos, Louis, tu peux peut-être nous parler de ton expérience d'hébergeur. Est-ce que tu y as trouvé bénéfice ?
Comme l'a dit Marion tout à l'heure, ça s'adresse beaucoup ici en particulier pour les stagiaires du FPP à Greta. Donc j'ai eu l'immense honneur de pouvoir fréquenter des jeunes demoiselles tout à fait dynamiques et sympathiques. Et ça s'est extrêmement bien passé, je ne regrette en rien. Voilà.
Et comment as-tu procédé à cette possibilité ? Quel est le cheminement ? Est-ce que tu as trouvé une certaine aisance, justement, pour pouvoir héberger ?
Comme ce sont des personnes actives, elles sont théoriquement actives dans la journée et elles rentrent le soir. Donc la cohabitation se limite au matin, éventuellement au soir. Après, bon, de toute façon, c'est marqué dans le contrat. Dans le contrat qu'on a signé avec le CDD, on prend le soin de réfléchir aux conditions impératives. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, je ne me rappelle plus. Ah oui, moi, j'ai une marotte et je n'aime pas quand la cuvette des WC reste allumée. Elle va être ouverte. Alors ça, c'était marqué. Pas laisser trop net ses chaussettes. Pas de fumée, pas de pétard. Voilà, tu n'as pas un espèce de cadre dans lequel...
Qu'on peut trouver chez n'importe qui.
Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai mis ces conditions qui ont été signées par l'héberger. Et d'ailleurs, dans mon cas de figure, ça s'est bien passé. Si d'aventure, ça se passait mal, et c'est là encore que la tierce partie de l'ECD peut se révéler à l'usage un peu intéressante, c'est que s'il y a un souci, eh bien, justement, Marion pourrait intervenir.
Oui. Oui, il faut que toutes les personnes qui bénéficient de cette cohabitation se sentent en sécurité par rapport au dispositif. Et donc, il y a vraiment une convention qui lie tout le monde et une possibilité d'intervention de ma part, si besoin, pour réguler les cohabitations qui en auraient besoin.
Je reviens vers Louis. Comment as-tu procédé à ton statut d'hébergeur ? Quelle a été ta démarche ?
Ma démarche, j'étais abordé par, à l'époque, c'était...
Martine.
C'était Martine, voilà, c'est Martine qui cherche, faut le savoir, faut lancer cet appel maintenant, à tous les gens qui ont d'immenses maisons et qui se sentent seuls chez elles, que vraiment vous pourriez être utile à vous proposer un petit espace. Donc j'ai rencontré Martine, que je connaissais par ailleurs auparavant, et qui m'a dit, au fait, tu pourrais pas proposer ta maison ? J'ai dit oui. Après, la démarche que j'ai simplement, effectivement, il y avait quelques conditions, puisque c'est des étudiants, il fallait qu'ils aient une table, donc j'en ai cherché une chaise. J'ai nettoyé et j'ai vidé une chambre. J'ai coupé le frigo en deux pour qu'on puisse chacun avoir notre petit espace. Mais après, c'est une colocation à quelque chose près, c'est pas sorcier. Il y a des gens qui sont plus ou moins aptes à colloquer, mais bon, personnellement, ça n'a pas été un souci.
Coraline, toi, tu es donc au sein de l'ESCDD. Quelle est ta participation sur ces dispositifs? Et est-ce que tu es aussi le relais entre le particulier et le propriétaire également?
Oui, ces thématiques de logement, d'hébergement sur le DIWA, de lien social autour du logement, ça fait partie du secteur dans lequel je travaille, qui est le développement local, qui va toucher du coup plusieurs thématiques. Le logement en fait partie. Et donc on a... Moi, mon travail, ça a été de trouver des partenaires financiers et techniques pour lancer cette cohabitation solidaire qui, d'ailleurs, avait déjà eu lieu sur le DIWA il y a une dizaine d'années auparavant, qui avait été portée par la communauté de communes, qui s'était arrêtée. Et puis, donc, on a décidé de remettre en route suite à tous les constats qu'on a évoqués. Donc là, c'est la CAF de la Drôme qui soutient financièrement ce projet parce qu'il s'agit de payer ce rôle aussi d'animation, de tiers, de mise en lien, de faire les conventions, de faire de la communication, etc. Donc on a la CAF, les caisses de retraite CARSAT et puis on est soutenu aussi un petit bout par la Fondation de France qui a permis du coup de prendre en charge le lancement de cette activité avec donc le poste de Martine, puis remplacé par Marion actuellement. Et puis bon, moi qui suis en soutien sur l'aspect administratif financier, on peut dire. Et qui est venu suppléer à un moment donné quand il y a eu besoin d'un petit tulage entre les collègues. On est en fait dans le lien technique, c'est-à-dire que l'espace social n'a pas tout inventé. On est en partenariat avec une association qui est basée à Eure, qui s'appelle Solidarité Habitat, dont c'est le cœur d'activité. C'est-à-dire que cette association, qui fait partie d'un grand réseau national qui s'appelle Cohabilis, a développé en fait les modèles de convention, les modèles de com, toutes les règles. Ils nous amènent toutes les informations et de la formation sur les réglementations, etc. Et donc, du coup, nous, on est un relais de Solidarité Habitat sur le DIWA. Donc, le but, c'est plutôt de faire ce maillage. Et puis, voilà un peu ma place là-dedans. Après, ce que je voulais compléter, c'est que je trouvais que c'est intéressant de voir comment ce dispositif il peut répondre à des besoins. Mais au départ, il y a vraiment l'intention de la personne, ce que tu disais, Louis. Cette intention de dire, en fait, je vais partager mon logement, je ne vais pas juste le mettre sur BNB, je vais peut-être, quand je pars, ou quelque chose comme ça, j'ai peut-être plus envie de partager quelque chose avec des gens, des personnes qui peuvent se sentir parfois seules, qui vont se dire, ok, déjà, de partir de l'intention, puis prendre les informations et avoir un interlocuteur, en l'occurrence Marion, une interlocutrice qui peut amener des réponses, répondre à toutes ses peurs, etc. Et aller jusqu'à un degré de détail si besoin pour nommer les choses. Est-ce que vous voulez bien qu'il y ait un animal, pas un animal? Est-ce que vous fumez pas? On sait aussi que des fois, quand on accueille quelqu'un chez nous, c'est pas toujours facile de... Ça peut être difficile de nommer les choses, de dire « Ah ben là, ta brosse à dents ici, ça me gonfle » ou je sais pas quoi, tu parlais de la lunette des toilettes. C'est des choses qui sont pas toujours faciles à dire. Et le fait d'avoir un tiers, justement, animateur, médiateur, ça permet un peu de faciliter ces échanges, d'avoir un interlocuteur pour vider aussi son sac s'il y a un truc qui va pas et puis qu'il y ait quelqu'un qui puisse poser les choses, dire « Allez, on se réunit, on fait le point là parce qu'il y a un truc qui va pas ». Parfois, il n'y a rien à faire. Des fois, ça roule complètement. Et puis parfois, il y a besoin de ce tiers et Marion est sur le pont à ce moment-là, quoi.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Ça, c'est le rôle aussi de vous trois, hein, que ce soit Coraline, Yann ou Marion. Vous êtes aussi médiateur dans ces contrats entre particuliers et hébergés ou locataires.
En tout cas, c'est notre point commun à tous, même avec le logement solidaire, je dirais, où il y a cette part de médiation, de tiers un peu qui vient sécuriser, accompagner les personnes. Et après, oui, cette mission de médiation, parfois, elle prend de l'ampleur, hein, Marion.
Oui, quand il y a un hébergé et un hébergeur qui ont du mal à cohabiter, ça vient toucher des choses qui ne sont pas toujours simples à régler entre les deux personnes. Et donc, l'intérêt de la médiation... Alors, moi, je ne suis pas médiatrice de formation, donc je ne propose qu'une médiation, juste une discussion. Voilà, je discute avec deux personnes et ça peut permettre de nommer des fois ce qui ne va pas et de résoudre des petits conflits avant que ça prenne des grandes proportions, comme il peut y avoir chez n'importe quelle personne qui habite ensemble. Voilà.
Sur Louer Solidaire, c'est un peu pareil. On peut être amené à faire de la médiation. même si c'est pour l'instant assez rare. Et on est vraiment effectivement sur l'idée du vivre ensemble. Qu'est-ce qui peut favoriser ça vis-à-vis de son voisinage, nous, puisque nous, c'est du logement, donc les gens sont dans leur logement. Mais vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis du propriétaire, vis-à-vis de plein de choses, le bruit, ça peut être les odeurs aussi. Nous, notre public, il faut savoir que c'est un public qui est soit à la rue, soit qui a été expulsé de son logement. Si on s'interroge un peu là-dessus, souvent, il y a beaucoup d'accidents de vie qui amènent à ce genre de choses, qui amènent énormément de fragilité, de repli sur soi, un estime de soi un peu dans les chaussettes, quoi, hein, quand même. Et du coup, nous, l'accompagnement, il va être surtout là-dessus, essayer de se reconstruire, de retrouver un peu de sérénité dans son logement, pouvoir reprendre pied avec tout ça, les démarches, l'accès aux droits, se refaire une vie sociale aussi, ça peut être ça parfois les objectifs. Bref, l'accompagnement, nous, il se focalise surtout sur les besoins de la personne, où elle en est, si tant est qu'on soit un peu conscient des difficultés, et essayer de travailler là-dessus. La médiation, pour nous, ça arrive de temps en temps, effectivement. Quand, des fois, il y a des personnes qu'on reçoit qui n'ont jamais eu de logement, à eux, en tout cas. Et effectivement, le respect du bruit avec les voisins, ou un truc, des fois, ne serait-ce que comment faire respecter le cadre dans son logement quand on organise quelque chose avec les amis. Ah, ça déborde. Ah mince, comment il y a quelque chose qui m'a échappé. Voilà, on reprend ce genre de choses et voilà.
À notre époque, prévalent les logements Airbnb. Ça impacte aussi sur votre démarche, votre action de logement, hébergement.
Alors moi, je dirais que c'est autre chose. En fait, c'est le Airbnb... Il intervient quand la personne n'est pas chez elle. Donc là, pour nous, en tout cas pour la cohabitation, ça n'a pas de lien.
C'est hors propos.
C'est hors propos parce que nous, il faut vraiment... Non, on s'adresse... Ouais, moi, je veux vraiment dire, parce que tout à l'heure, Louis, tu disais, c'est des gens qui ont des grandes maisons. Pas forcément. On peut juste avoir un enfant qui a grandi et qui est parti. Sa chambre reste libre. Et ça peut servir à accueillir. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une grande maison. Mais on est obligé, par contre, d'avoir envie d'accueillir quelqu'un. Ça, c'est sûr.
Bon, alors, je relance mon appel vibrant à tous les gens qui ont une petite, une moyenne, une grande maison avec au moins une chambre libre. Parce que, mine de rien, pour en revenir à ta question, Yves, qui n'est pas anodine, c'est vrai qu'il y a une partie non négligeable du parc immobilier qui est soit en résidence secondaire, soit en Airbnb, soit en location saisonnière, qui se fait au détriment des possibilités et des locaux et des gens de transit. Effectivement, c'est une vraie question, et ça, moi, je préfère, c'est un choix, encore une fois, de privilégier un hébergement solidaire, social, à prix modique, afin de faire vivre le territoire. C'est un véritable choix.
Il y a aussi le travailleur saisonnier. Hein, c'est aussi une problématique à venir, et qui existe déjà. Il y a cette notion aussi d'intergénérationnalité. Ça, c'est aussi une possibilité pour des personnes âgées d'être assistées au quotidien grâce à ce dispositif.
Au départ, la cohabitation s'appelait cohabitation intergénérationnelle. Elle est devenue cohabitation solidaire pour élargir. De fait, parce que, en fait, il y a des mélanges de tous âges, hein, finalement. On peut avoir à peu près le même âge et cohabiter. Comme il y a aussi des situations où, en effet, il y a une personne plus âgée et un jeune qui vient habiter. Il y a eu pas mal d'expériences, là, sur le Diwa. On en est à presque une bonne quinzaine de cohabitations mises en place, je pense, environ. Et du coup, dans ces quinzaines de cohabitations, je dirais qu'il y a un tiers qui est vraiment intergénérationnel avec des personnes plus âgées.
Oui, on a une minorité en tout cas.
Une minorité, voilà.
Et je pense que les personnes âgées qui sont dans des maisons devenues trop grandes pour elles, et qui des fois ont des étages qui deviennent inaccessibles parce que avec des escaliers trop raides par exemple, c'est tout à fait une cible pour ce type de cohabitation. Mais ça veut dire aller au-delà des appréhensions et des peurs que les personnes peuvent avoir d'accueillir quelqu'un chez eux qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc c'est vraiment, il faut que la personne, elle soit en paix avec ça, que ce soit quelqu'un qui adhère à ce dispositif. Et du coup, c'est pour ça qu'on a bien insisté sur l'existence de la convention qui permet vraiment de nommer pour l'hébergeur tout ce qu'il a besoin de nommer. Il y a des entretiens avec les potentiels hébergés qui permet vraiment de voir si on est d'accord sur tous les points. C'est très important pour que du coup les bases d'une bonne cohabitation soient posées.
Voilà. Il y a un entretien ou une rencontre préalable entre l'hébergeur et l'hébergé?
D'abord, il y a une rencontre avec une personne, la personne qui héberge, la personne qui demande. On essaie de bien la comprendre, voir son profil, ses besoins, tout ça. Et après, il va falloir essayer de créer les bons binômes en fonction. Est-ce qu'envoyer une personne là, bon, bah, en fait, on sait que ça ne va pas coller tout de suite, soit pour des raisons très claires, l'histoire des chats, là, je ne sais pas, par exemple, ou parce qu'on sent que ça ne va pas coller. Donc, c'est un peu avec finesse des tentatives. Et puis après, on peut aussi y aller doucement, l'histoire des conventions. Ça peut être de tester pendant une semaine, deux semaines, et puis de se dire non, ça colle pas, c'est pas grave, j'arrête, ou alors je change de trouver peut-être une autre personne, ou alors au contraire, ça colle. Il y a des personnes qui restent parfois en renouvelant les conventions presque un an chez des gens, et ça crée des amitiés, des liens. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que la personne qui est hébergée et pas remplace pas les aides à domicile, fait pas, elle n'est pas là, la personne, pour faire des travaux qui remplaceraient des auxiliaires de vie. C'est vraiment complémentaire. On est vraiment sur plutôt partager des moments, se soutenir, faire des petites tâches. On pense à, par exemple, fermer les volets le soir, des choses comme ça, des petites actions dans le jardin, tout ce qui est complémentaire à l'aide à domicile et qui peut soutenir la personne âgée.
Alors, justement, je voudrais juste rajouter, par exemple, que la dernière personne qu'on m'a proposée, c'est pour te donner un contre-exemple de quelque chose qui ne s'est pas, une cohabitation qui n'a pas eu lieu, car nos besoins n'étaient pas en phase. Moi, personnellement, j'avais dit un certain nombre de cohabitations à durée limitée, et la personne voulait poser ses valises pour presque toujours. Et donc, ça ne l'a pas fait.
Et,
donc,
ça,
et tout le monde est parti. Et ça s'est très bien passé par la suite. Je crois qu'elle a trouvé quelque chose.
Oui, oui. Tout le monde. En fait, quand les choses sont nommées, quand on prend vraiment la liberté de dire ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas, ça se passe bien. Et tout le monde est reparti de son côté, mais en paix.
Et Yann, pareil, donc ça c'est cet aspect du logement, de poser ses valises à un endroit, ça c'est plus votre fonction. Louis Solidaire, donc ça c'est une mission que s'attelle le CCAS, et ça permet justement pour des personnes qui souhaitent s'installer d'accéder à ce type de logement.
Oui. Comme je le disais dans la présentation de Louer Solidaire, les personnes font une demande au SIAO à travers un travailleur social. Donc forcément, il y a déjà en général un accompagnement. Alors cette demande, ils peuvent trouver plusieurs endroits pour la formuler. Ça peut être des personnes qui sont accompagnées par le centre médico-social de Die, une famille ou une personne isolée. Ça peut être des personnes qui vont aller à l'accueil de jour, un dispositif, je sais pas moi, des personnes en grande marginalité, quelqu'un qui a habité en camion pendant trop longtemps, qui est un peu usé de ce mode de vie, qui a besoin d'un logement, mais il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus. Pareil, il peut y avoir des problèmes d'accès aux droits, des problèmes de santé qui se cumulent. Donc, vraiment, effectivement, en général, il y a un parcours qui est vraiment usant auparavant, avec des problématiques de santé qui se conjuguent avec des problématiques de droits, des fois des problématiques de santé mentale aussi. Bref, l'idée, c'est effectivement de se poser. Donc, en général, quand une personne est orientée vers louer solidaire et qu'elle rentre dans un logement, on lui laisse le temps de se poser, de s'approprier le logement, le quartier. On va être plutôt sur des objectifs comme ça, justement, à essayer de repérer le quartier, comment aller retrouver les petites habitudes d'avant, voire même reprendre pied avec un logement pour quelqu'un qui n'a pas eu cette habitude pendant longtemps, retrouver les habitudes de laver son linge, laver ses draps, des choses qui pour nous, nous paraissent tellement normales pour un parcours de vie un peu chaotique où des gens sont restés trop longtemps à la rue sans logement. Oui, toutes ces habitudes-là, il faut reprendre pied avec. Et c'est pas forcément évident.
Il y a ces logements qui se raréfient ou ces hébergements du fait de ce qu'on avait déjà dit. Est-ce que il existe peut-être une politique, qu'elle soit de l'intercommunalité ou de la ville de Die, peut-être d'acquérir des logements ou des bâtiments qui puissent être voués à cet aspect?
Je pense qu'il y a la volonté. Après, c'est que pour l'instant, il n'y a pas forcément les finances ou le bâti. Il peut y en avoir. Des fois, il y a des choses qui existent. Hein. Puis des fois, qui partent un peu trop vite parce que l'argent, il vient vite. Celui qui sort le plus gros billet, c'est lui qui va avoir le bâti, quoi. C'est un peu ce qui se passe quand même. Donc, je pense que la volonté politique, elle est vraiment là. Enfin, moi, mon ressenti, c'est quand même ça. C'est, je pense, ces dernières années, il y a eu une vraie prise de conscience et des avancées. Ça a mis du temps. Il y a un temps politique qui est des fois plus long, mais je pense qu'il y a des choses en route. Là, on ne peut pas développer complètement parce que déjà, il y a d'autres interlocuteurs qui pourront en parler, mais par exemple sur le centre-ville de Die, toutes les rénovations avec l'OPH là, de Solia qui sont en route pour aller inciter les propriétaires à rénover des vieux appartements pour les remettre en location ou en vente, mais avec des logements de qualité. Là, le CCAS qui se lance, et puis la politique de logement d'abord. Nous, au sein de l'espace social, c'est aussi une décision politique que de s'engager un peu plus sur les questions d'habitat, parce que c'est aussi des choix. Hein. On ne peut pas tout faire, mais on choisit d'aller là-dedans, on choisit de chercher des fonds pour développer ça. C'est des questions de volonté aussi.
Alors, si je puis me permettre, rappelez-vous ce que Lénine avait dit en son temps, à savoir là où il y a une idée, il y a un chemin, et des petits exemples comme la mairie de Barnave, hein, qui a considérablement stabilisé son budget en acquérant, je ne sais comment, mais avec sans doute beaucoup moins de moyens financiers que la commune de Die, ils ont quand même réussi à acheter, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de logements qui leur assurent tous les mois, des mensualités relativement stables.
Oui, bien sûr, les logements communaux, tout ça, il y a pas mal de communes hein, qui le font et qui ont des logements de qualité qui se proposent aux habitants. Donc, je pense que ça multiplie les possibles, quoi, comme ça.
Et puis, ça, on parle de revitalisation du centre-ville. Bref, c'est tout bénef. Quand le logement va, tout va.
Si vous êtes propriétaire, que vous cherchez à mettre du sens derrière la location de votre logement, c'est possible en contactant le CCAS pour louer solidaire ou principalement, et puis pour la cohabitation solidaire, que vous soyez propriétaire ou locataire, pour se mettre en lien et puis répondre à des besoins aussi.
Il y a des permanences d'accueil justement pour les demandes, que ce soit le propriétaire ou des locataires.
Pour louer solidaire, il suffit de se mettre en lien effectivement avec le CCAS. Il y a deux façons, soit un mail en fait. C'est louersolidaire@mairie-du-6-die.fr ou alors un téléphone 06 09 95 44 49. Ou alors, vous venez à la mairie, on vous donnera un rendez-vous avec moi sans doute. Voilà, parce que c'est bien aussi de pouvoir en discuter.
À la rentrée, il y aura le forum des associations, vous serez présent?
Oui, bien sûr.
On sera présent.
Nous, l'espace social, oui, en tant qu'association.
On sera présent aussi pour pouvoir promouvoir la cohabitation solidaire. Et je donne le numéro de téléphone qui sert à faire le lien. Donc c'est le 07 57 48 76 68. Voilà. Et si quelqu'un est intéressé à perdre le numéro de téléphone, il suffit d'aller à l'espace social qui est ouvert pratiquement tout le temps. Donc ce sera facile de trouver quelqu'un qui répondra aux questions.
Je mettrai les coordonnées aussi sur la page de l'émission.
Super.
Eh bien, nous terminons l'émission. Je remercie Louis, Coraline, Marion et Yann d'être venus sur RDWA pour nous parler donc du logement solidaire.
Merci.
Merci. Merci.
Et bonne soirée. Au revoir.
Interview. Okay. Bye-bye.